Dom Théo. Dom Théo, un dialogue théologique avec les Dominicains de Toulouse.
Frère Édouard, bonjour.
Bonjour, frère Philippe.
Nous voilà encore sur les alliances, mais finalement, c'est pour les terminer. Voilà. En effet, nous avons vu que de la création au Christ Jésus, Dieu avait cette pédagogie de faire alliance avec son peuple, et il a parlé à plusieurs reprises. Nous avons vu donc Abraham, Noé, Moïse. Nous avons même évoqué cette pédagogie. Il a parlé par nos pères. C'est l'importance de ceux qui nous ont précédés, des pères. Mais in fine, il a parlé en son Fils. Et le catéchisme de l'Église catholique nous dit: Dieu s'est révélé pleinement en envoyant son propre Fils, en qui il a établi son alliance pour toujours. Celui-ci est la parole définitive du Père, de sorte qu'il n'y aura plus d'autres révélations après lui. Cette phrase est importante, quelque chose qu'on ne cesse de redire, mais je constate, comme souvent, ça crée quelques déceptions, quelques frustrations, oui. Comme si on enlevait la possibilité que Dieu ait dit d'autres choses par des gens qu'on oui. apprécie du point de vue spirituel.
Exactement, et même, je dirais, certains théologiens des religions aimeraient croire que des nouvelles religions aient pu, dans la volonté de Dieu, apparaître après le christianisme. Et c'est vrai qu'on est en face de réalités religieuses qui naissent, mais est-ce que ça veut dire qu'elles sont postérieures au Christ? Elles sont peut-être tout simplement une façon de revivre quelque chose qui est ancien et qui n'est qu'un prolongement ancien de ce qui a déjà eu lieu, une étape, en fait, antérieure de la révélation, parce qu'aux yeux de Dieu, tout est éternel. Et donc, quelqu'un peut très bien vouloir revivre quelque chose qui a été déjà donné du temps de Noé, du temps d'Abraham, du temps de Moïse, en le transformant un peu pour que ce soit vécu. Et je crois que c'est important de comprendre qu'avec Jésus, c'est non seulement le dernier dans le temps, mais l'ultime dans la perfection.
Oui, d'une certaine façon, ça va être un peu cavalier comme je vais le dire, mais Dieu ne peut pas mieux faire.
Maintenant. Et voilà, Dieu ne peut pas mieux faire parce qu'il est descendu lui-même au milieu de nous. Il a parlé, comme dit l'Épître aux Hébreux, de bien des reprises et de bien des manières, de multiples reprises, et par les prophètes, en ces jours qui sont les derniers, c'est ça qui est important dans l'Épître aux Hébreux, c'est-à-dire que nous sommes au niveau de la fin des temps, au niveau eschatologique, comme on dit, nous sommes dans les derniers temps, et il nous a parlé par son Fils. Et ce début de l'Épître aux Hébreux, nous le lisons souvent pour la fête de Noël, parce que tout est récapitulé à ce moment-là, on nous dit, ça y est, tout est dit. Et bien sûr, encore faut-il l'expliciter, il ne suffit pas, je dirais, de seulement le savoir, il faut encore l'expliciter de génération en génération, et chaque génération de chrétiens doit se réapproprier avec de nouvelles problématiques ce qui est dit une fois pour toutes.
Dans cette affirmation, au fond, et tu fais référence à Noël, à la nativité où nous, dans la nuit de Noël, dans la liturgie, nous avons le récit de la naissance d'un enfant entre son père et sa mère, donc qui n'a pas été attendu d'une certaine façon, en tout cas par l'environnement dans lequel se trouvaient les parents. Et le jour de Noël, nous avons ce grand texte qui inaugure l'évangile selon saint Jean.
Le prologue.
Le verbe s'est fait chair. Il y a cette idée que donc le Fils de Dieu est le Verbe de Dieu. Nous avons tendance à penser que la révélation sont des paroles qui sont dites, comme elles ont pu être dites à Noé, Moïse. Mais le Fils est la parole elle-même.
Et la parole elle-même, c'est la parole incarnée. C'est pas pour rien que saint Jean, certainement, a repris ce mot grec, logos, qui veut dire à la fois la parole et le Verbe, et qui signifie bien que c'est la deuxième personne de la Trinité qui a voulu s'incarner parmi nous, qui a voulu prendre notre tente, qui s'est mise dans la réalité humaine jusqu'au bout. Et saint Jean de la Croix a, dans le catéchisme, cela est rappelé, une magnifique parole pour nous le redire. Et saint Jean de la Croix, c'est le maître mystique, c'est-à-dire si quelqu'un veut rentrer dans la vie spirituelle, la le passage par les explications de Saint Jean de la Croix s'impose souvent, hein, parce que c'est un maître, je dirais, pour la conduite des âmes. Ça n'est pas pour rien que l'Église l'a nommé docteur de la vie spirituelle, docteur mystique. Et il dit, dès lors que Dieu nous a donné son Fils, qui est sa parole, Dieu n'a pas d'autre parole à nous donner. Il nous a tout dit à la fois et d'un seul coup en cette parole. Car ce qu'il disait par partie au prophète, il l'a dit tout entier dans son Fils, en nous donnant ce tout qu'est son Fils. Voilà pourquoi celui qui voudrait maintenant l'interroger, ou désirerait une vision, une révélation, non seulement ferait une folie, mais ferait injure à Dieu, en ne jetant pas les yeux uniquement sur le Christ, sans chercher autre chose ou quelque nouveauté. Saint Irénée a cette belle parole, il dit qu'avec le Christ, en s'apportant lui-même, il a apporté toute nouveauté. C'est beau comme expression dans son Adversus Aereses. Toute nouveauté vient avec le Christ. On n'a pas besoin d'en chercher une autre. Tout est dit. C'est magnifique.
Oui. Du coup, cette force que peut avoir pour nous le fait que le Fils de Dieu est Verbe de Dieu, la seconde personne de la Trinité est Verbe de Dieu et parole, je trouve que pour nous aujourd'hui, ça a de l'importance de voir l'importance de la parole. Dieu vient comme parole. Non seulement il parle, mais il se fait parole, non ?
Il se fait parole et donc il nous oblige d'une certaine manière sans cesse à revenir à cette parole et ne pas chercher des compléments imaginatifs, des compléments, je dirais, sensibles que, vis-à-vis desquels l'homme est très facilement attiré. On voit la féerie du cinéma, la féerie de la télévision, d'Internet, etc. Les hommes sont fascinés par les images et donc ils ont un peu toujours envie de voir du neuf ou du lire du neuf. Il y a une attirance vers la nouvelle image, vers la nouveauté, vers la nouvelle chose qui fait ding-dong. Et c'est quand même impressionnant de voir. Et c'est vrai que nous autres chrétiens, nous devons être vigilants là-dessus, parce qu'il y a eu au cours de l'histoire de l'Église des grands saints qui ont eu de très authentiques visions, de très authentiques, je dirais, révélations privées. Et l'Église a eu la prudence de prendre son temps, d'examiner, de voir, et dans certains cas, d'authentifier. Souvenons-nous, ici en France, notre chère sainte Bernadette de Lourdes, qui a eu la vision de la Vierge à la grotte de Massabielle, c'était quand même assez extraordinaire, puisque c'était juste après la décision du pontife de l'époque de déclarer Marie immaculée en sa conception, et 4 ans après, la Vierge venait redire la même chose, d'une manière même encore plus abstraite, en disant « Je suis l'Immaculée Conception », alors que le pape avait seulement dit qu'elle était immaculée en sa conception, en prenant un simple adjectif. Elle disait, elle, qu'elle était l'Immaculée Conception, en abstrayant même la parole du pape dans un mot encore plus absolu, plus total. Et l'Église a beaucoup examiné ce message de Bernadette, et puis elle a dit, ben oui, c'est bon, allez-y, on peut construire l'Église, on peut faire les pèlerinages, et aujourd'hui encore, c'est une grande source de foi pour l'ensemble de l'Église.
Mais cela dit, ça nous rappelle que la parole a du poids. Aujourd'hui, on discrédite beaucoup la parole.
Oui, oui.
Et vouloir rajouter au Christ qui est parole, c'est penser à des paroles qui se jettent facilement, disons
d'une
façon.
Oui, d'une certaine manière, on tombe dans la société de consommation. Et ça, c'est vrai qu'il faut faire très attention que nous affirmons quelque chose qui est au-delà de cet écoulement du temps. Nous touchons avec la parole de Dieu l'éternité. Et ça nous donne quand même un souffle extraordinaire pour affronter les épreuves, pour éprouver les difficultés. Et on comprend très bien que certains, voulant reconnaître ces difficultés et les affronter, ont été tentés par des révélations privées, je dirais, et qui donnent un peu un goût à la parole par derrière, mais qui en même temps peuvent un peu obscurcir, je dirais, par leurs propos, cette parole de Dieu dans sa virginité, dans sa pureté, dans son élan, je dirais, intègre. À trop en rajouter, on finit par desservir la parole unique de l'Écriture.
Il y a un appel à la vigilance.
À la vigilance.
Et tu penses à certaines révélations.
Alors, je pense à certaines révélations. Tout le monde connaît l'histoire de Marie d'Agreda, de Thérèse Newman, de Maria Valtorta, cette Italienne. Disons que c'est peut-être la moins... La plus proche des textes, Maria Valtorta, mais enfin quand même, il y a une mise en garde par ce qu'on appelait le Saint-Office après donc Pie XII en 1959, donc sous la vigilance du pape Jean XXIII, de Saint Jean XXIII, il y a eu une condamnation des écrits, des poèmes de Maria Valtorta avec cette grande prudence qu'a l'Église en disant il y en a trop, on fait trop parler Jésus dans ses textes, on lui prête trop de sentiments, ça correspond trop aux disputes théologiques de l'époque, et on va même jusqu'à affirmer qu'il y aurait, à côté de la hiérarchie de Saint-Pierre, il y aurait une deuxième hiérarchie féminine qui serait comme la hiérarchie, une deuxième hiérarchie ecclésiastique de la Mère de Dieu. Mais la Vierge Marie n'a jamais demandé à rentrer dans une hiérarchie quelle qu'elle soit. Elle est bien au-delà. Les grandeurs hiérarchiques sont au service des grandeurs de sainteté. C'est pas les grandeurs de sainteté qui vont se mettre au service des grandeurs de hiérarchie. Ce serait le monde à l'envers.
Non.
Je crois qu'il y a une espèce de parallélisme malvenu dans ces idées de faire une double hiérarchie.
Et Sainte Marguerite Marie à la coque.
Alors Sainte Marguerite Marie à la coque, c'est beaucoup plus sérieux parce que elle reprenait au XVIIe siècle la contemplation du cœur de Jésus. Et le cœur de Jésus, ben, il est révélé. Jésus dit lui-même dans Matthieu chapitre 11, « Venez tous à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et je vous soulagerai, car je suis doux et humble de cœur. » C'est-à-dire Jésus parle de son cœur. Et Marguerite Marie à la coque, en voyant le cœur de Jésus, en parlant du cœur de Jésus, eh bien, a gardé la vigilance pour que cette fête ne dépasse pas l'Évangile, elle soit une explicitation au XVIIe siècle de l'Évangile, pour qu'il soit mis, je dirais, en actualité par rapport aux épreuves du temps par où passait l'Église au XVIIe siècle et qui s'est prolongée, puisque l'Église en a fait une fête permanente que nous célébrons après Pâques, après Pentecôte.